de son antisémitisme. Wagner devient peut-être antisémite parce qu'il est atrocement jaloux du succès et de l'argent de Meyerbeer. Wagner n'en est pas à une contradiction près. Dans le judaïsme, dans la musique, il insulte Meyerbeer. Ce même Meyerbeer auquel il a passé la brosse à reluire pendant des années. Ce même Meyerbeer qu'il a rêvé d'imiter. Ce même Meyerbeer qu'il a aidé à faire jouer Rienzi et le vaisseau fantôme. Les gens se vengent des services qu'on leur rend, disait Thomas Bernhardt. Voilà une phrase pour Wagner. Richard Wagner n'est pas à la hauteur de ses œuvres. Wagner est de mauvaise foi, comme tous les antisémites. Wagner se venge des services que lui a rendus Meyerbeer. Dans ses considérations ressenties, Wagner reproche à Meyerbeer et à Mendelssohn de ne pas avoir de langue maternelle et donc de baragouiner un idiome qui, des générations plus tard, reflète toujours la prononciation sémite. Cette absence de langage personnel les condamne à l'absence de style propre et au pillage. L'horrible cosmopolitisme de Mendelssohn et Meyerbeer les empêche d'atteindre l'art. Quelle extraordinaire imbécilité. Or, Wagner n'est pas un imbécile, il est donc de mauvaise foi. Il a conscience que ses propos sont idiots. C'est sa haine qui parle. Il est aveuglé par sa haine, comme il le sera par sa femme Cosima Liszt lors de la réédition de son pamphlet, cette fois-ci sous son nom, 20 ans plus tard. Wagner est un criminel. Un criminel haineux. Si Wagner connaît Bach et cette harmonie dont il sait si magnifiquement faire usage pour révolutionner la musique, c'est à Mendelssohn qu'il le doit. Mendelssohn qui tire, à Leipzig, Bach, de l'oubli relatif dans lequel il était tombé. Je revois cette photo atroce où un policier allemand très content de lui, avec casque à pointe et moustache, pose devant la statue de Mendelssohn, enchaînée à une grue, prête à être démolie au milieu des années 30. Ce policier, c'est Wagner. On dira ce qu'on voudra, mais même Nietzsche était dégoûté par la mauvaise foi de Wagner. Et peu importe si c'est pour des raisons personnelles, lui aussi, qu'il rejette le petit policier de Leipzig. Il a raison d'être dégoûté par Wagner, l'anticosmopolite, perdu dans l'illusion de la nation. Les seuls Wagner acceptables sont Mahler et Schoenberg. La seule grande œuvre audible de Wagner, c'est Tristan et Isolde, car c'est la seule qui ne soit pas atrocement allemande ou chrétienne. Une légende celte ou d'origine iranienne, ou inventée par un auteur médiéval inconnu, qu'importe. Mais il y a Vis et Ramine dans Tristan et Iseult. Il y a la passion de Majnoun le fou pour Leila, la passion de Khosrow pour Shirin, un berger et une flûte. Désolé et vide, la mer. L'abstraction de la mer et de la passion. Pas de Rhin, d'or, ni d'ondine nageant ridiculement sur scène. Ah, les mises en scène de Wagner lui-même à Bayreuth. Ça devait être quelque chose en termes de kitsch, bourgeois et de prétention. Les lances, les casques ailés. Comment s'appelait la jument offerte par Louis II le fou pour la scène? Un nom ridicule que j'ai oublié. Il doit y avoir des images de cette carne illustre. La pauvre, il fallait lui mettre du coton dans les oreilles et des œillères pour ne pas qu'elle prenne peur ni ne broute les voilages des ondines. Il est amusant de penser que le premier Wagnerien d'Orient fut le sultan ottoman Abdulaziz, qui envoya à Wagner une grosse somme d'argent pour le théâtre du festival à Bayreuth. Malheureusement, il mourut avant de pouvoir profiter des lances, des casques, de la jument et de l'acoustique sans pareil du lieu qu'il avait contribué à ériger. Le nazi iranien du musée Abghine de Téhéran était peut-être wagnérien, qui sait. Quelle surprise quand ce type rond et moustachu d'une trentaine d'années nous a abordé entre deux vases magnifiques dans cette salle presque déserte. Le bras levé en gueulant « Heil Hitler !»